monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgan Yeriek et Eric Manirakis en votre compagnie. Bienvenue dans cette édition du mardi 4 octobre 2016. Au sommaire ce soir...
RDC Congo, il n'y aura pas d'élection en novembre. Le président Joseph Kabila ne donne pas de date précise.
À Johannesburg, de nouveaux heurts entre policiers et étudiants qui réclament une éducation gratuite pour tous.
La fuite des cerveaux plombe l'Afrique subsaharienne. 7 millions d'Africains qualifiés sont partis dans les pays riches en 2013.
Et Syrie, le régime poursuit son offensive à Alep pour reprendre les quartiers rebelles. Washington suspend sa coopération avec Moscou sans renoncer à la recherche d'une trêve.
L'économie et les sports.
Juste après le journal.
Violence à Bangui, la capitale de la République Centrafrique. Un officier de l'armée a été tué ce matin dans le quartier musulman PK5. 3 éleveurs peuls ont été tués en représailles. Le ministre de la Sécurité, Jean-Serge Bokassa, parle d'une situation extrêmement tendue.
Et dans le nord du Mali, 2 casques bleus, un civil et un militaire malien, ont été tués en moins de 24 heures. Le militaire malien a été tué aujourd'hui près de Tombouctou lorsqu'une escorte de l'armée a été attaquée par des djihadistes présumés. On fait le point avec notre correspondant à Tombouctou, Abdoulaye Traoré.
L'axe Tombouctou-Gundam, après quelques mois d'accalmie, renoue avec les attaques contre l'armée malienne, les FAMA. Un convoi militaire est victime ce matin d'une embuscade à une trentaine de kilomètres de Tombouctou sur la route de Gundam. Des sources militaires, les affrontements ont fait 1 mort et 2 blessés côté armée malienne. Aucun bilan n'a été fourni côté assaillant. Cette attaque est attribuée au groupe terroriste considéré comme les ennemis de la paix au Mali. Selon la même source, les forces armées et de sécurité ont engagé une poursuite pour retrouver les auteurs. Abdoulaye Traoré depuis Tombouctou pour VOA Afrique.
Kinshasa accuse Paris d'encourager les extrémistes. Le porte-parole du gouvernement Lambert Mende a réagi aux déclarations du ministre français des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault qui demandait au président Joseph Kabila de ne pas se représenter. Eddy Issango.
Pour Lambert Mende, Jean-Marc Ayrault allume un brasier en encourageant les extrémistes. Pour les porte-parole du gouvernement, le chef de la diplomatie française évacuera ses compatriotes et laissera les Congolais se débrouiller. M. Ayrault avait demandé au président Joseph Kabila de respecter la Constitution et de ne pas se représenter à la présidentielle. La sollicitude du ministre Ayrault pour la RDC devient suspecte, a réagi M. Mende, ajoutant qu'elle rappelle les interférences qui ont créé les chaos en Libye. M. Mende dénonce la France de ne pas avoir apporté un seul franc pour la tenue des élections en RDC. En déplacement en Tanzanie, le président Joseph Kabila n'a pas précisé à quelle date devront se tenir les élections. Il a déclaré qu'il valait mieux préparer les pays à ces échéances, car selon lui, 10 millions d'électeurs ne sont pas inscrits sur les listes. L'opposition l'accuse de manœuvrer pour se maintenir au pouvoir.
Les médias publics ont été paralysés au Burkina Faso. Une grève des agents journalistes et techniciens a notamment affecté le quotidien national d'État, Sidoya et la radio-télévision publique. En grève depuis lundi, le personnel des médias demande des augmentations salariales et une autonomie des journalistes.
En Afrique du Sud, la police a tiré des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes pour disperser des étudiants à Johannesburg, réclamant l'éducation gratuite pour tous. Les détails avec Nathalie Barge.
Les échauffourées ont éclaté sur le campus de l'université de Wits, où les cours devaient reprendre après 2 semaines d'interruption. Plusieurs policiers et étudiants ont été blessés. Le 19 septembre, le gouvernement a annoncé une augmentation des frais universitaires limitée à 8%, soit une hausse supérieure à l'inflation annuelle de 6%. La décision a déclenché des manifestations un an après un mouvement similaire qui s'était soldé par un gel des frais universitaires pour 2016. Selon les étudiants, l'éducation gratuite pour tous est conforme à la Charte sud-africaine des libertés. Mais l'ANC affirme que le document prévoit la gratuité seulement pour les pauvres. Le gouvernement s'est engagé à prendre en charge pour 2017 l'augmentation des frais universitaires pour les étudiants issus de foyers gagnant moins de 600 000 rand par an.
Fuite des cerveaux. Le nombre de travailleurs qualifiés quittant l'Afrique subsaharienne augmente rapidement, un phénomène qui pénalise le développement du continent, met en garde le Fonds monétaire international. Les précisions de John Lindon.
Dans son rapport sur les prévisions économiques mondiales, le FMI estime que le chiffre des Africains qui vont vers les pays les plus riches pourrait bondir de 7 millions en 2013 à 34 millions en 2050. La fuite des cerveaux est particulièrement importante en Afrique subsaharienne, note l'institution qui précise que ce boom migratoire est largement nourri par la rapide croissance de la population active des pays africains. Le rapport note toutefois que des Africains qualifiés reviennent aussi s'installer dans leur pays natal après quelques années à l'étranger. Par ailleurs, l'aide financière de la diaspora à des proches restés au pays constitue une source de devises et de soutien à la consommation locale. Au Libéria, cela représente presque un quart du produit intérieur brut. La France, la Grande-Bretagne et les États-Unis accueillent près de la moitié de cette diaspora d'Afrique subsaharienne.
John Lindon. Au Nigeria, la Cour de justice de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest s'insurge contre la détention prolongée de l'ancien conseiller pour la sécurité nationale du pays. La CDAO parle de détention illégale de Sambo Dasuki depuis le 5 novembre 2015. L'affaire est pourtant emblématique de la campagne contre la corruption lancée par le président Mahamadou Buhari depuis son arrivée au pouvoir.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Yémen, au moins 10 civils, dont 6 enfants, ont été tués et 17 autres blessés dans le sud-ouest du pays. L'attaque a été attribuée aux rebelles chiites Houthis.
À Alep, dans le nord de la Syrie, la diplomatie est à l'arrêt. Les États-Unis ont suspendu ce lundi leur pourparlers avec la Russie sur un cessez-le-feu sur le terrain. La situation empire. Des combats de rue ont opposé les rebelles aux forces du régime syrien qui poursuivent leur progression. Salwa Jafari.
Rue après rue, les combattants pro-gouvernementaux avancent dans Alep, la partie de la grande ville du nord contrôlée par les rebelles et soumise à d'intenses bombardements du régime et de son allié russe. Leur objectif, occuper les quartiers proches de la ligne de démarcation avec Alep Ouest, contrôlée par le régime, afin de cantonner les forces rebelles au sud-est de la ville. Cette offensive a suscité l'indignation des pays occidentaux. Les États-Unis ont annoncé lundi soir la suspension des pourparlers avec la Russie sur un éventuel nouveau cessez-le-feu.
Nous allons continuer comme nous l'avons fait avant, nos efforts pour une cessation des hostilités dans tout le pays, ce qui veut dire que les avions doivent être immobilisés.
De son côté, la Russie espère que la sagesse politique prévaudra et que les États-Unis reviendront sur leurs décisions.
Le chef de la Ligue arabe a appelé aujourd'hui un cessez-le-feu urgent à Alep pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire.
Par contre, la Russie a déployé des systèmes de défense antiaérienne S-300 à Tartous, ville côtière du nord-ouest de la Syrie. Moscou possède des installations portuaires militaires, a annoncé ce soir le ministère russe de la Défense.
Le président russe Vladimir Poutine se rendra le 10 octobre à Istanbul pour rencontrer son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Il devra participer au Congrès mondial de l'énergie. Il s'agit de la première visite en Turquie de Vladimir Poutine depuis le sommet du G20 en novembre 2015.
Plus de 12 000 policiers ont été mis à pied en Turquie dans le cadre de purges visant les partisans présumés de l'ex-prédicateur Fethullah Gulen. Il est accusé d'avoir ourdi le putsch avorté de la mi-juillet.
La marine de guerre saoudienne conduit un exercice militaire d'envergure dans et autour du détroit stratégique d'Ormuz sur fond de tension avec l'Iran. Et l'exercice est destiné à tester la capacité de combat de l'armée saoudienne et se protéger contre toute tentative d'agression.
Le gouvernement palestinien a annoncé aujourd'hui le report de plusieurs mois des élections municipales, initialement prévues début octobre, mais sapées par les divisions entre mouvements rivaux.
Le féroce ouragan Matthew, qui s'est abattu sur le sud-ouest d'Haïti aujourd'hui avec des vents violents a déjà fait 2 victimes. Il provoque des inondations et force des milliers d'habitants à évacuer et les autorités redoutaient d'importants dégâts.
Le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, a promis aujourd'hui des révélations en rapport avec l'élection présidentielle aux États-Unis. Selon M. Assange, Wikileaks est la cible d'une chasse aux sorcières orchestrée en particulier, selon lui, par Mme Clinton. Il a aussi promis, au cours des 10 prochaines semaines, des révélations sur la guerre, les armes, le pétrole, Google et la surveillance massive.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et on enchaîne sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, la Minute Éco avec Nanit Talani.
Les pays émergents restent les moteurs de la croissance mondiale, mais affrontent nombre de difficultés dues au ralentissement économique chinois et à la faiblesse des cours des matières premières, a averti ce mardi le FMI. L'Afrique subsaharienne verra sa croissance fortement ralentir à 1,4% en 2016 contre 3,4% en 2015. Les perspectives de ces pays sont inégales et généralement plus maussades que par le passé, souligne le FMI. La compagnie nationale électrique sud-africaine Eskom et China Development Bank ont signé hier lundi 3 octobre un accord de près de 500 millions de dollars. Ce financement va permettre à Eskom de poursuivre son vaste programme d'expansion des capacités électriques de l'Afrique du Sud. La compagnie nationale exploite 28 centrales électriques et produit environ 90% d'électricité. Cette année, Eskom est parvenue à réduire les délestages et coupures qui ont longtemps affecté l'économie sud-africaine. La livre britannique poursuivait sa chute ce mardi en tombant à un niveau plus bas en 31 ans face au dollar, signe de l'inquiétude des investisseurs qui craignent que le Royaume-Uni opte pour un Brexit dur vis-à-vis de l'Union européenne. La devise britannique a également atteint un niveau plus bas en plus de 3 ans face à la monnaie européenne ce matin.
Et c'est le moment des sports. Aujourd'hui, on va commencer toujours par le football. Morgane, on a de bonnes nouvelles concernant Rigobert Song.
L'ex-capitaine des Lions indomptables du Cameroun, Rigobert Song, 40 ans, victime dimanche d'un accident vasculaire cérébral, est sorti du coma et se trouve dans un état acceptable. C'est ce qu'a indiqué le directeur de l'hôpital de Yaoundé, où il a été admis de même source. Un avion médicalisé à bord duquel le football sera évacué vers la France est attendu aujourd'hui à Yaoundé, avec à son bord une équipe de médecins français. Rigobert Song a été victime d'un AVC dans la nuit de samedi à dimanche alors qu'il se trouvait à son domicile à Yaoundé, selon la radio d'État. Ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun, il est l'actuel sélectionneur de l'équipe A du pays.
Mmh. Et la FIFA a sanctionné la Chili. C'est quoi exactement, Mangane ?
Un autre match de suspension pour le stade de Santiago. Alors, un match supplémentaire de suspension à son stade national de Santiago, donc c'était mardi, par la FIFA, qui a confirmé d'autres sanctions visant plusieurs fédérations latino-américaines et européennes en raison du comportement de leurs supporters. En mai, le Chili s'était vu refuser le droit de disputer ses 2 prochains matchs dans le stade de la capitale à la suite de chants homophobe lors de rencontres éliminatoires du Mondial 2018 Italie-Arabie. Tennis, suspension réduite pour Sharapova qui pourra rejouer dès avril. Maria Sharapova a accueilli ce mardi avec soulagement la réduction de 2 ans à 15 mois de sa suspension pour dopage qui lui permettra de reprendre la compétition dès avril 2017. La blonde russe de 29 ans avait été suspendue 2 ans par la Fédération internationale de tennis le 8 juin pour avoir pris du meldonium, un médicament inscrit depuis février sur la liste des produits interdits, Eric.
Oui, Morgane, c'était à l'issue d'une décision d'appel plusieurs fois repoussée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, Morgane Guerriac et Eric Manirakiza en votre compagnie. Place au dossier du jour, première escale, la RDC.
Absolument, Morgane. Au Sud Kivu, des inquiétudes dans le milieu politique des organisations de la société civile sur le dialogue politique convoqué à Kinshasa et qui tend vers des accords politiques. Le parti présidentiel de PPRD a organisé une matinée politique très houleuse à Bukavu. Alors que la société civile et le mouvement citoyen Réveil des Indignés disent non au partage du pouvoir à l'ébauche de calendrier proposé par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Reportage de Ernest Mouhero.
Pour les présidents nationaux de la nouvelle dynamique de la société civile, Jean Chrysostome Kidjana, envisager les élections présidentielles en 2018 telles qu'elles ressorties implicitement dans le propos du président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, revient à marcher à contre-courant de la volonté du peuple.
C'est bien de dialoguer, mais le dialogue ne peut pas remplacer la Constitution. Ce que le président de la CENI a donné comme proposition, c'est une provocation à l'endroit de la population congolaise. La CENI n'est pas au-dessus de la Constitution. Et s'il faut qu'il y ait transition, tant mieux, mais ça ne sera pas avec celui-là même qui a orchestré qu'il n'y ait pas élection dans ce pays. S'il y a impossibilité d'organiser les élections dans les délais, on doit appliquer la Constitution, notamment l'article 75 qui stipule qu'en cas d'empêchement définitif, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim au sommet de l'État.
Alain Tambouka, secrétaire exécutif provincial du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie au Sud Kivu, rappelle à l'opinion que les débats sur qui dirige la transition en RDC après le 19 décembre 2016 et déjà tranché par la Cour constitutionnelle.
Ce n'est plus aujourd'hui un débat que le président Kabila va rester président pendant la transition. C'est tout à fait légitime mais aussi légal. Ceux qui sont en train de s'opposer à ça, si réellement ils veulent sauver et consolider la démocratie, cette jeune démocratie en RDC, nos concitoyens feraient mieux de monter dans les trains pour que tout le monde puisse arriver à bon port sans qu'il n'y ait de casse.
Néanmoins, ce répondant du parti présidentiel au Sud Kivu reconnaît que dans la matinée politique du PPRD qu'il a organisée, plusieurs inquiétudes ont été relevées par les militants. Alain Tambouka.
L'inquiétude majeure que demain, il y aurait un gouvernement d'union nationale et qu'il aurait à sa tête un premier ministre issu des rangs de l'opposition. Ce n'est pas facile à digérer pour nos militants. Ils disent que ça ne nous inspire pas confiance que quelqu'un qui n'a jamais regardé dans le même sens que le président Kabila, qu'il arrive pratiquement à mettre en exécution son programme ou sa vision.
Pour Amos Bissimoa, militant au sein du mouvement citoyen Réveil des Indignés, il n'est pas question d'accorder plus d'une année à la CENI pour l'organisation des élections.
Nous avons été tellement indignés des propos de la CENI qu'elle laisse entendre qu'il faut que les élections aient lieu en 2018. Les Indiens ne sont pas d'accord avec ça. Mais nous disons que le temps qui sera accordé à la CENI pour qu'elle parvienne à organiser les élections, il faut que ce soit une période très courte, pas au-delà d'une année.
Ernest Mouhero, Bukavu, VOA Afrique.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Bukavu sur 97.4 FM.
Allez, on s'en va au Bénin. Le phénomène de la dépigmentation artificielle de la peau continue de défrayer la chronique et pour cause, ceux qui cherchent à s'éclaircir la peau, prétendant ou espérant ainsi s'embellir, ne se rendent pas souvent compte des dangers qu'ils encourent. À Cotonou, Ginette Flora Dandé, correspondance.
Au marché d'Antokpa, le plus grand centre commercial du Bénin, on y rencontre un peu de tout, mais surtout ces hommes et femmes qui offrent des conseils de beauté. Ils vendent surtout des mélanges de savon et de pommade pour le corps, pour tout type de peau, mais beaucoup plus pour ceux qui veulent passer de la peau noire à la peau claire. Mais une association œuvrant pour la sauvegarde de la peau noire, après plusieurs séances de sensibilisation, a réussi à arracher au métier quelques-uns qui étalent ici les dangers du phénomène.
Il y a des gens qui grossissent. Alors normalement, on croit que c'est de la bonne santé, mais ce sont des gens qui sont remplis de sel et d'eau.
La dépigmentation est une mauvaise pratique. La surveillance de la grossesse chez une femme dépigmentée est une grossesse pathologique.
Tout produit cosmétique aujourd'hui au Bénin depuis 2012 doit avoir une autorisation de commercialisation avant d'être commercialisé au Bénin.
Toutes les femmes béninoises ne sont pas férues de la pratique. Il y en a tout de même qui pensent qu'agresser sa peau à l'aide de produits dépigmentants n'est pas le signe extérieur d'une quelconque beauté.
Partie d'une peau noire pour devenir une blanche, pour ne s'arrêter qu'aux femmes. Ça, c'est une manière de défier la nature, de défier l'autorité de Dieu. C'est d'abord une question d'éducation, parce qu'il y a des peaux noires qui sont belles. Donc, il faudrait que les femmes ou les hommes qui s'adonnent à ces pratiques arrivent à s'assumer, c'est important, à s'accepter telles qu'elles sont. Ce n'est pas une référence que d'avoir la peau claire, mais la référence, c'est d'être propre.
Alors que la société béninoise avait encore du mal à accepter la pratique au niveau des femmes, elle s'est heurtée au goût prononcé des hommes pour la chose. Les hommes le font et parfois mieux que les femmes, et ceci pour les raisons que voici.
Nous remarquons que les hommes se dépigmentent pour pouvoir plaire aux femmes, pour que ces dernières investissent dans leur subsistance. Ce sont elles qui achètent les produits éclaircissants, ce sont elles qui les habillent.
Anaïs est dermatologue. Elle reçoit à son cabinet des patients dont la peau reste marquée par les conséquences néfastes de l'utilisation abusive et répétée des produits dépigmentants.
Les problèmes de peau importants comme la diminution de l'épaisseur de la peau et également des infections graves dues à des champignons, des bactéries, etc. car la peau ne peut plus lutter contre les agents extérieurs qui pénètrent directement dans le corps. Les personnes qui se dépigmentent sur une durée prolongée ont des problèmes d'hyperthyroïdie, d'hypertension, de diabète et aussi de cancer de la peau.
La dépigmentation est un phénomène commun à bon nombre de pays africains, mais au Bénin, elle prend une allure vertigineuse au mépris des conséquences pourtant irréversibles. De Cotonou, Jeanette Leadandé pour VOA Africa.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Golf FM, Cotonou, 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Le Togo, à présent, le pays peine à assurer une meilleure couverture sanitaire. Le pays dispose d'au moins de 2000 centres de santé. De plus, les hôpitaux publics n'ont pas bonne réputation, de même que le plus grand établissement du pays, le centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio. Dans ce reportage de notre correspondante à Lomé, Kai Lawson, les perceptions des Togolais.
Le Togo compte 3 centres hospitaliers universitaires CHU, dont 2 à Lomé et 1 à Kara. Le CHU Sylvanus Olympio de Lomé-Tokoin, communément appelé CHU Tokoin, est celui qui est le mieux nanti, mais ce centre sanitaire n'a pas la cote auprès de la population.
Service d'urgence. Non, quoi, mais vers le Côte d'Ivoire.
Au service d'urgence, lorsque le patient arrive, le personnel soignant prend tout son temps pour la prise en charge. Nous savons qu'ils sont débordés, mais ils peuvent faire plus d'efforts.
Il faut les supplier parfois même, glisser quelque chose avant qu'ils n'interviennent dans ton côté pour s'occuper de toi.
Tokoin, il n'y a pas d'accueil. L'hôpital même, la propriété, il y a la pédiatrie. Si tu vas là-bas, tu ne vas pas respirer. 4 enfants, 5 enfants sur le même lit.
Une femme, par exemple, qui vient pour l'accouchement, la femme souffre. La sage-femme pour accueillir la femme, on n'en trouve pas.
L'une des accusations portées par les patients contre les centres de santé au Togo est le détournement des médicaments.
Moi, j'ai été victime. Après l'opération, l'infirmier vient et dit que le produit est fini, on a déjà utilisé. Je dépense comme ça. Mais après là, j'ai appris qu'à la maternité, il y a ces produits-là que normalement ils devaient utiliser gratuitement. Mais ils vendent ça.
Je dis bien, j'ai été victime. On me prescrit un produit que je cherche ça dans la pharmacie de l'hôpital. Je n'en trouve pas. Qu'allons-nous faire? Quand on amène les produits, qu'on voit que c'est important, ils détournent ça.
Le plateau technique fait défaut, ce qui pousse certains Togolais à aller se faire soigner au Ghana voisin. Mais avec la barrière linguistique et monétaire, c'est un parcours de combattant. Pour le traitement de certains cas de cancer, le Togo ne dispose pas encore de structure de prise en charge adéquate, ce que déplore Lisa Nujord.
Pour le problème du cancer, là, ils n'ont qu'à créer un centre de radiothérapie pour les malades. Au lieu que nos grands-sœurs, les malades, aillent au Ghana, au Nigeria, pour utiliser l'argent, l'État peut construire un centre de radiothérapie ou bien quelque chose au Togo.
Selon une étude réalisée en 2014, le Togo dispose d'un médecin pour 16 690 habitants, d'un infirmier d'État pour 4 746 habitants et d'une sage-femme d'État pour 15 691 habitants. Le document intitulé « Principaux indicateurs de santé 2014 » issu de cette étude indique qu'il y a 2 ans, le Togo disposait de 1286 établissements de soins pour répondre aux besoins en soins curatifs, préventifs et promotionnels. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, l'Afrique a-t-elle connu des progrès depuis 10 ans en matière de gouvernance globale? La Fondation Mo Ibrahim répond oui. Amélioration notamment au niveau du développement humain, des droits de l'homme, du climat des affaires et de la lutte contre la corruption. Mais les Africains sont moins en sécurité qu'il y a une décennie, d'après un rapport de la Fondation. Y a-t-il eu effectivement des progrès dans votre pays? Votre quotidien s'est-il ainsi amélioré? Ou au contraire, les questions de sécurité ont-elles pris le dessus sur de tels progrès? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi, à 19h10.
Présidentielle américaine, alors que les yeux seront braqués ce soir sur les colistiers d'Hillary Clinton et de Donald Trump pour leur premier débat, les mauvaises nouvelles s'amoncellent pour ce dernier. À 36 jours de l'élection, sa fondation est épinglée par la justice à New York et le candidat républicain est aussi attaqué sur sa feuille d'impôt. Jacques Aristide.
Le procureur général de l'État de New York, un démocrate qui soutient Hillary Clinton, a ordonné à la Fondation Trump de cesser de recueillir des dons car elle ne s'est pas correctement enregistrée auprès des autorités. La justice new-yorkaise enquête par ailleurs pour déterminer si Donald Trump a utilisé l'organisation à des fins personnelles, ce qui est interdit pour les associations caritatives. L'annonce suit la publication ce week-end par le New York Times d'extraits de sa déclaration de revenus de 1995 qui indique qu'il pourrait n'avoir pas payé d'impôts pendant plusieurs années. Son entourage a souligné que profiter de niches fiscales n'avait rien d'illégal et prouvait au contraire le génie de Donald Trump. En tant qu'homme d'affaires et promoteur immobilier, j'ai légalement utilisé les lois fiscales à mon avantage et à celui de mes entreprises, de mes investisseurs et de mes employés. S'est-il défendu lors d'un meeting dans le Colorado et le milliardaire a dit que sa rivale, à l'inverse de lui, n'avait jamais créé un seul emploi de sa vie. Le camp démocrate s'est aussitôt engouffré dans la brèche pour dénoncer l'hypocrisie du candidat populiste. Alors que des millions de familles américaines, dont la mienne et la vôtre, payaient leur part, il semble qu'ils n'aient rien contribué à notre pays, a déclaré Hillary Clinton dans un meeting à Toledo, au lieu de l'industrie automobile dans l'Ohio, un état-clé du scrutin au nord du pays. Il a qualifié notre armée de désastreuse, a poursuivi la candidate démocrate. Elle n'est pas désastreuse, mais elle aurait pu l'être si tout le monde avait refusé de payer des impôts.
Et Jacques, selon les derniers sondages, Mme Clinton reprend de l'avance sur M. Trump.
Eh bien, la cote du candidat républicain s'affaisse depuis plusieurs jours, notamment depuis sa médiocre prestation au débat de la semaine dernière. Il domine toujours dans le très crucial Ohio, mais en Floride et Pennsylvanie, les deux autres géants du scrutin, la démocrate est en tête. Si Hillary Clinton a gagné ses deux États le 8 novembre, la Maison-Blanche lui serait quasiment garantie. Au niveau national, elle était créditée hier de 43,8% des intentions de vote, contre 41% pour Donald Trump. Les prochains jours et le prochain débat entre les deux principaux protagonistes dimanche seront l'une de ses dernières chances de convaincre les Américains. En attendant, les colistiers des deux candidats débattront ce soir en Virginie. Le républicain Mike Pence et le démocrate Tim Kaine n'ont ni la notoriété ni l'éloquence de leurs candidats. Mais des millions d'Américains vont suivre ce rendez-vous traditionnel de la campagne.
Merci Jacques.
C'est la fin de cette édition. Lionel Runanilagahima a dirigé la mise en onde avec l'assistance de Greg Byrne à la console. Présentation Morgane Guerrier, Eric Manilakitz.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Et merci d'être à l'écoute de VOA Afrique. Merci à nos fans sur Facebook. 1 900 000. On maintient la conversation.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.